Et nous poursuivons donc avec Ludovine de la Rochère. Ludovine de la Rochère, bonjour, vous êtes par téléphone, est-ce que vous m'entendez ?
Je vous entends parfaitement. Bonjour Alexandre.
Alors, aujourd'hui, eh bien, écoutez, nous allons parler d'un sujet à nouveau, toujours en lien avec donc votre statut de présidente du syndicat de la famille. Un sujet qui est d'ailleurs complexe et très intéressant à la fois. Vous avez intitulé ça « Quand l'État prend la place des parents ».
Voilà. Alors, le rôle des parents est d'éduquer leur enfant avec amour, bien entendu, mais aussi avec exigence. L'objectif étant de l'aider à bien grandir et à devenir un adulte responsable, capable de mener sa barque. Mais dans sa toute puissance, l'État estime qu'il sait mieux faire que les parents. À l'origine, c'était surtout pour faire des petits Français de bons citoyens nourris de valeurs républicaines. Et cela ne date pas d'hier, vous le savez, c'est en 1932 que le ministère de l'Instruction publique est devenu le ministère de l'Éducation nationale. Et croyez-moi, ce n'était pas pour les beaux yeux des parents, et encore moins des parents catholiques. Là-dessus, le féminisme est passé par là, qui estime que les femmes doivent être des hommes comme les autres, et notamment mener carrière comme ces messieurs. Travailler à la maison, ou travailler à temps partiel, rentrer tôt, prendre le mercredi ou les vacances scolaires, un scandale, vous dis-je, puisque cela conduit forcément à des inégalités salariales. Et si des mères souhaitent élever leurs enfants elles-mêmes, c'est qu'elles sont les victimes de stéréotypes de genre. Leur aspiration est donc illégitime. Forçons-les à être enfin égales aux hommes en menant une vie d'homme. À cela s'est ajouté le déclin de notre économie, avec chômage de masse, hausse du coût de la vie, écherté du logement, merci Giscard d'Estaing, merci Mitterrand. Et cela conduit toutes les femmes désormais à chercher un emploi, qu'il lui plaise ou non.
Oui.
Et de toute façon, prudence oblige, vu le taux de divorce et de séparation, mieux vaut prendre ces dispositions et prévoir le pire, bien sûr. Les mères n'ont donc d'autre choix que de travailler à l'extérieur en ne s'arrêtant que quelques petites semaines après la naissance de leur enfant. Alors certes, comme Marine Tondelier, qui annonce attendre un enfant après des années et des années d'attente, mais qui compte tout de même faire campagne pour la présidentielle, de nombreuses femmes aiment travailler en dehors du foyer. Mais on parle là de classes aisées, aux diplômes élevés, qui ont des jobs motivants. Or, ce n'est pas le cas de toutes, loin s'en faut. Et donc, père et mère travaillent désormais autant l'un que l'autre. Mmh. Le foyer familial est éteint, froid et désert du lundi au vendredi toute la journée.
Mais alors qu'en est-il des 650 000 enfants qui naissent chaque année ?
Alors aucun problème, l'État s'occupe de tout. Dès que l'enfant a 2 mois et demi de vie, il est pris en charge. Crèche ou assistante maternelle, puis école, cantine et périscolaire, complétée de centres aérés pour les mercredis après-midi et les vacances scolaires. L'État peut tout et tout le temps. Et les semaines entières, où tous les membres de la famille sont séparés les uns des autres, alternent avec des week-ends que les parents abordent épuisés et stressés. Alors ce sera le supermarché et les écrans la plupart du temps. Mmh. Tout de même, avouons-le, cela laisse bien peu de disponibilité pour accompagner, éduquer et même voir tous ces petits riens de tous les jours qui sont en fait des pas de géant dans les apprentissages de son enfant.
Et alors justement, garder ses enfants, c'est une chose, mais les éduquer, c'en est une autre.
Alors qu'à cela ne tienne, l'État a ajouté à l'apprentissage des savoirs fondamentaux un tas d'enseignements éducatifs, en vrac, sauvetage de la planète et des espèces menacées, éducation alimentaire, éducation à l'hygiène, contrôle sanitaire, vaccination, sécurité routière, sécurité incendie, mais aussi éducation morale et civique, et encore éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, la fameuse EVARS, au motif que les parents ne la font pas. Mais comment le pourraient-ils ?
Alors, si on se met à la place des enfants, peut-être que tout va bien pour eux.
Alors, bien des questions se posent en vérité. Comment supportent-ils le bruit permanent de la collectivité ? Apprécient-ils tous, toutes les personnes entre les mains desquelles ils passent ? Ces personnes exercent-elles leur choix, leur métier par choix ou à défaut d'autre chose ? Comment sont-elles recrutées et à la suite de quelle formation ? Autant de questions qu'il faut se poser quand on confie son enfant. Et d'ailleurs, et surtout, toutes ces personnes qui traversent la vie des enfants sont-elles en cohérence avec ce que les parents veulent leur transmettre? Sont-elles les témoins qu'ils souhaitent sur leur chemin? Et j'ajouterai une autre question. Est-on bien conscient du fait que les enfants sont des imitateurs, que tout adulte est pour eux un modèle et qu'ils sont aussi complètement vulnérables? Enfin, question supplémentaire, estimons-nous vraiment, comme les progressistes semblent le croire, que nous vivons dans un monde de bisounours dans lequel tout le monde serait de bonne volonté, empli d'amour et d'empathie pour l'autre?
Ah, vous semblez pas y croire.
Alors non, en effet, et je pense à de tragiques affaires de violence et viols sur mineurs, comme en Lozère, où le référent éducation sexuelle nommé l'été dernier s'est révélé avoir été condamné pour pédocriminalité. À Nantes, où un assistant familial de l'aide sociale à l'enfance a été mis en examen pour viol avec acte de torture et de barbarie sur mineurs, ou encore au scandale du périscolaire à Paris. Alors ainsi, l'État, qui oblige tous les parents directement ou indirectement à lui confier leur enfant, a très gravement failli, et ce depuis des années.
Et alors, finalement, que s'est-il passé à Paris ?
Alors depuis 2016, des signalements de probables violences, sexuelles notamment, ont été régulièrement adressés par des parents aux responsables d'établissements où des enfants sont accueillis sur le temps périscolaire, alors notamment à l'école publique Saint-Dominique, mais dans d'autres également. Or, s'il semble que ces signalements sont plus ou moins remontés à la DASCO, la Direction des Affaires Sociales de la mairie de Paris, qui gère le périscolaire, rien n'a été fait pour sécuriser le recrutement des animateurs et pour renforcer les contrôles. Et ce scandale est finalement sorti au grand jour grâce à l'enquête de Cache Investigation, diffusée sur France 2 fin janvier 2026, soit au bout de 10 ans. Sans cela, la grande majorité des parents dont l'enfant était concerné par des violences et des viols subis dès l'âge de 3 ans n'en auraient jamais rien su. Et tout ce qu'on trouvait à dire des responsables et certains médias, comme Mediapart, c'est que les difficultés de recrutement, le turnover des animateurs et le manque de moyens pour les contrôler en était la cause, un discours insupportable. Le manque de moyens ne justifie absolument rien, bien évidemment. Ce drame, en revanche, renvoie à une question corollaire. L'État peut-il tout à la place des parents? Peut-il remplacer tous les pères et les mères de France pour veiller sur les enfants et les éduquer? La réponse est claire, c'est non.
Mais ces drames surviennent aussi dans les familles.
Certes, des familles sont dysfonctionnelles et des drames peuvent hélas survenir, mais ce n'est pas lié à la nature même de la famille. L'État, au contraire, n'est par nature ni aimant, ni protecteur, ni éducateur. Il peut instruire et encore. Pour autant, cela signifie-t-il que l'un des parents doit renoncer complètement à travailler à l'extérieur et rester à la maison pour veiller lui-même sur son enfant, pour être à son écoute et pour mieux connaître l'école, ceux qui y travaillent et, bref, tous ceux que l'enfant rencontre? C'est sans doute idéal, mais quand les parents le souhaitent et le peuvent. Or, aujourd'hui, la grande majorité des parents n'a pas le choix, ou pense en tout cas ne pas avoir le choix.
Alors, comment les parents peuvent-ils faire ?
Un équilibre est à trouver pour ne pas laisser sans cesse son enfant aux mains d'autres adultes, pour ne pas laisser les autres l'éduquer à sa place, et bien sûr pour les protéger d'éventuels prédateurs. Donc congé parental, travail à temps partiel, télétravail, diverses possibilités existent et sont à développer davantage pour être suffisamment présent pendant les quelques années où il est si essentiel pour l'enfant d'être protégé, mais aussi d'avoir des repères stables, une cohérence dans les choix éducatifs et un temps suffisant pour que lui soient transmis les valeurs auxquelles tiennent ses parents. Ceci dit, pour nourrir la réflexion de notre société sur ce qu'elle veut véritablement pour ses enfants, pour leur protection et pour leur avenir.
Merci Ludovine de La Recherche pour cette chronique. Je voudrais rester un petit peu avec vous quand même, parce que c'est un sujet qui est effectivement particulièrement important, c'est un sujet majeur. On voit bien tous les scandales qui peuvent arriver, je pense notamment à l'aide sociale à l'enfance, aux animateurs dans le périscolaire, au scandale des crèches. Finalement, on se rend compte que l'État est défaillant dans bien des domaines, mais comme vous le dites un petit peu en conclusion, le problème, c'est la société. Ce qui est, pardonnez-moi, enfin ce qui est très juste, ce qui est aussi une réponse de gauche quelque part, mais ce qui est aussi très juste, c'est-à-dire qu'on a l'impression que structurellement, la société n'est absolument plus organisée pour favoriser la famille.
Alors, il y a plusieurs dimensions. D'abord, la famille est irremplaçable, ça c'est tout à fait évident, c'est tout à fait clair. Mais l'État, dont la mainmise est largement de gauche, qui estime que donc l'État peut tout faire, l'État croit qu'il peut remplacer la famille et même une partie de ses dirigeants, suivant les époques, cherchent à la déconstruire, puisqu'elle serait un lieu d'inégalité, d'injustice, etc. Et donc, il y a une volonté de mainmise sur l'éducation des enfants. Également parce que on souhaite qu'il n'y ait pas de transmission des inégalités. Or, une famille, quand il y a un père et une mère, elle est forcément, comment dire, caractérisée par des inégalités hommes-femmes, et en l'occurrence par le patriarcat. Donc, il faut déconstruire la famille et il faut éduquer à la place des parents pour éviter cette transmission des inégalités. Cela était précédé d'un autre axe qui lui aussi perdure, hein, bien sûr, qui est d'éviter la transmission, soyons très clairs, de valeurs chrétiennes, de valeurs, disons, de traditionnelles, de valeurs qui ne conviennent pas à nos dirigeants. Alors, ça dépend certes desquelles et ça dépend de quelle époque, mais le sujet est celui-ci. Et l'État, dans sa toute-puissance, croit pouvoir remplacer la famille. Or, le fait est que, par nature, l'État est un monstre froid. L'État n'est pas, ce n'est même pas qu'il est inhumain, il n'est pas humain. Et donc, les enfants, que ce soit à l'ASE ou ailleurs, passent d'un adulte à un autre. Chacun n'est pas véritablement responsable et ne cesse de
En
transmettre
fait,
l'enfant au
c'est
suivant.
quelque chose dont on parlait avec Julie Solveig ce matin, qui a produit donc une enquête pour Ligne droite sur le périscolaire parisien. Finalement, le souci dans le fond, c'est même pas l'État en soi, c'est le fait que les personnes qui y œuvrent font partie d'un système de déresponsabilisation permanent.
Oui, mais c'est tout à fait exact, avec un manque de contrôle, un manque de sérieux, avec beaucoup d'irresponsabilité dans la mesure où personne n'est responsable, parce que la responsabilité est collective, elle est très complexe. On le voit très bien dans l'affaire du périscolaire. Et du côté de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, là, comme dans beaucoup de pays, il y a des services, enfin comme dans la plupart des États, il y a des services de l'État qui ont remplacé d'ailleurs ce qui était fait par les religieux pendant des siècles, et l'État vient recueillir des enfants dont les parents sont défaillants. Le problème et la question qui se pose, c'est pourquoi ces défaillances, ces dysfonctionnements familiaux sont-ils de plus en plus nombreux, de plus en plus graves et de plus en plus fréquents? Aujourd'hui, l'aide sociale à l'enfance est débordée par le nombre d'enfants, de très jeunes enfants, d'enfants et d'adolescents à recueillir. Et l'ASE ne parvient plus au point d'en arriver à des dérives gravissimes. Et là, on peut y voir deux phénomènes qui sont, un, la difficulté des parents à assumer leur rôle de parents, et en fait, des parents qui eux-mêmes n'ont pas été éduqués et qui eux-mêmes ne sont pas en mesure de prendre en charge leurs enfants. Et puis le deuxième axe, c'est le recrutement des animateurs qui n'est pas fait avec la sécurité nécessaire, avec les contrôles nécessaires. Parce qu'il y a aussi une chose, vous voyez, si je prends une question qui est tout à fait différente, quoique celle de l'euthanasie. L'euthanasie et le suicide assisté que veulent un certain nombre de politiques, là aussi, il s'agit de personnes très vulnérables. C'est pour ça que je fais ce parallèle. Et dans la proposition de loi qui est envisagée, on fait comme si il n'y avait aucun risque de dérive, aucun risque d'avoir affaire à tel ou tel membre du personnel qui est dans une dérive personnelle et dans une dérive morale, voire criminelle. Or, malheureusement, l'humain est humain.
En un mot, Ludovine de la Rochère.
Eh bien, en un mot, l'État ne peut pas remplacer la famille et l'éducation qui est donnée aux enfants sera ce qui leur permettra eux-mêmes d'être parents à leur tour. Et autrement dit, tout ce que peut
Oui.
faire l'État éventuellement, c'est soutenir la famille, c'est valoriser le rôle des parents et c'est ne pas chercher à remplacer la famille. Et cela, c'est gravissime. Ça ne peut pas fonctionner. Et c'est un sujet de réflexion pour les parents, pour les grands-parents, pour la société, sans culpabilité. Mais il y a vraiment une prise de recul à prendre à une époque où on peine à s'occuper des enfants parce qu'on manque de temps.
Merci Ludovine de la Rochère d'avoir été avec nous un peu plus longtemps que d'habitude ce matin. C'était un plaisir de vous recevoir et puis on vous dit